Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, il est 6h04 sur RMC. Alors avant de débuter votre week-end des experts, un mot sur le contexte dans lequel cette matinale va se réaliser. Vous le savez certainement, notre groupe, Next Radio TV, Altice Média, qui représente RMC mais aussi les marques de BFM et de 01net, traverse une importante crise sociale. La direction a annoncé mettre en place un plan de réduction d'effectifs qui a entraîné un mouvement de grève d'une partie des salariés du groupe. C'est pour cela que, d'ailleurs, depuis quelques jours, la grille des programmes de RMC est perturbée, et celle de BFM TV, de BFM Paris et des autres médias du groupe. Et dans ce contexte particulier, et même si la plupart d'entre nous sommes solidaires de ce mouvement, nous avons décidé de travailler ce matin et d'assurer vos émissions. Alors dans un mode qui sera sans doute dégradé, mais nous sommes là et on tenait aussi par la même occasion à vous remercier de votre fidélité et de tous vos messages de soutien. Voilà, chose dite. Et bien écoutez, voilà, maintenant c'est parti, c'est le week-end des experts. On est ensemble jusqu'à 10h avec Raphaël Grably qui sera là pour la vie numérique tout à l'heure. Et avec Raphaël, on reviendra sur nos coups de cœur high-tech de l'été. Et croyez-moi, il y en a quand même quelques-uns, que ce soit les smartphones, les PC, comment bien partir en vacances avec le numérique. On retrouvera aussi le docteur Christian Henriquet entre 8h et 9h qui sera là. On va parler de la pratique du vélo, mais s'il vous plaît, avec un casque, parce qu'il y a énormément d'accidents, justement parce qu'on est de plus en plus nombreux à prendre le vélo et à ne pas mettre de casque. Et puis on parlera aussi du sommeil tout à l'heure avec Christian Ricard, comment bien dormir et réguler son sommeil. Ça sera d'ailleurs aussi un peu la thématique de ce matin, puisqu'avec Christian PC, on évoquera la literie et comment bien choisir son lit, entre autres, et aussi son ventilateur. Avec toutes les chaleurs qu'il y a en ce moment, c'est important de se rafraîchir. Mais pour débuter, entre 6h et 7h, vous le savez, c'est le jardin, et c'est avec Patrick Mulan qui est à mes côtés en direct. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous, très très bienvenue dans les jardins. Alors, ils ont relativement bien passé le coup de chaleur. Bon, si vous n'avez rien arrosé, évidemment, ils sont en triste état. Mais bon, ça va aller parce que la semaine prochaine, les températures vont non seulement se modérer, mais même
mais oui, bien sûr,
devenir fraîches.
Ouais, c'est ça.
Donc on va être sur des écarts extraordinaires et puis il y aura de la pluie abondante vers la fin de la semaine.
Mais là, sur les terrasses et dans les jardins, là, dans la région parisienne en tout cas, c'était compliqué ces deux derniers jours.
C'était compliqué si vous n'aviez pas du tout d'ombrage.
Voilà.
Nous qui avons un jardin assez ombragé, et même si on était parti 4 jours en reportage, eh bien on est revenu avec relativement peu de dégâts.
C'est vrai ?
Oui.
Très bien. Patrick, au menu de cette heure dédiée au jardin, les questions. Bien sûr, Bastien sera là dans un instant. On va le retrouver. On évoquera aussi les lavandes. Alors, la plante, la culture et les utilisations de la lavande.
C'est la plante du moment.
Et oui.
C'est la plante du moment.
Les rejets, les drageons, les stolons, les gourmands. Est-ce qu'on doit les utiliser ou alors les éliminer?
Ah, ça, c'est la bonne question.
Est-ce qu'il faut sortir le sécateur ou alors les caresser dans le sens du poil?
Il y a un peu les deux, mon capitaine.
Et bien évidemment, je le disais, vos questions, vous avez deux moyens pour nous joindre. Alors le 32-16, bah justement, on vous parlait tout à l'heure d'émission qui est en mode dégradé. Vous ne pouvez pas nous appeler au 32-16. En tout cas, nous n'avons pas de standardiste ce matin. Voilà, on joue la transparence. Hein. En revanche, vous pouvez nous joindre via Direct Studio, puisque vous le savez, avec votre smartphone, via l'appli RMC, vous pouvez à tout moment nous envoyer vos messages et laissez-nous votre téléphone portable. À ce moment-là, on pourra vous rappeler pour que vous puissiez passer à l'antenne. Donc, vous voyez, l'interactivité est conservée. Vous pouvez dialoguer avec nous, mais uniquement via Direct Studio. Merci d'être là. Bienvenue ce week-end des experts, 6h08. Et on attaque avec Bastien qui est là. Bonjour Bastien.
Bonjour messieurs,
bonjour Bastien.
Ravi de vous avoir au téléphone, bonjour Patrick, bonjour François.
Bonjour Bastien et bienvenue sur RMC.
Merci, ça fait un bon moment que je voulais passer, je vous écoute tous les samedis, c'est un régal.
Et
tous les dimanches aussi pour François,
qui est
d'après moi le plus grand expert de France.
Ah bah oui, mais bien sûr, ça vous savez quoi, je vais l'écrire sur les murs je pense.
Ah ça il faut absolument le stipuler.
C'est pas moi l'expert vous savez, moi je donne la parole aux experts, je ne suis qu'un humble candide par rapport à eux. Mais en tout cas, merci de votre fidélité Bastien, ça nous fait plaisir.
Mais vous savez, c'est notre chef d'orchestre, donc on en a besoin parce que c'est comme tous les musiciens. Si on n'a pas de chef d'orchestre, ben on a tendance à jouer faux.
Oui, de temps en temps, je les mène un peu à la baguette, justement.
Exactement, et vous jouez tous très bien.
C'est gentil, Bastien. Alors, quelle était votre question? On vous écoute.
Alors, moi, j'avais plusieurs questions. J'avais déjà joint Gilles il y a un petit moment. Donc, j'ai été envahi de scies arides, comme à tous les printemps.
Oui.
les Syrites, j'ai réussi, je ne sais pas si elles sont disparues avec la chaleur ou avec les nématodes que je leur ai donnés, parce qu'en fait, elles se sont propagées dans tout mon balcon. J'ai un balcon avec beaucoup, beaucoup de plantes. Et donc, j'ai réussi à les éradiquer. Je ne sais pas si c'est avec la chaleur qu'elles disparaissent ou si c'est les nématodes qui ont fait qu'elles ont disparu. Patrick pourra m'en dire un peu plus, parce que c'est un problème qui revient tous les étés, enfin tous les printemps. Et j'aurais aimé savoir si les tomates pollinisaient toutes seules, parce que j'ai plusieurs plants de tomates, mais j'en ai hélas que 2-3 qui sortent et les fleurs qui fanent. Donc voilà, mes deux questions.
On va commencer par la première. Bon, alors déjà, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que sont les Syriidés, bon, on les appelle les mouches des terreaux, hein, donc ce sont plusieurs espèces qui sont toutes petites, ces mouches, hein, ça fait 3 à 5 mm de long. Alors, elles sont assez rigolotes parce qu'elles ont, si on les regarde de près, 3-5
mm. Des mouches rigolotes.
Bah oui, parce qu'en fait, elles ont des antennes très longues, très fines et puis des grandes pattes. Donc, ça fait un peu des animaux un peu bancals. C'est un peu bizarre. Alors, elles, les mouches en elles-mêmes, elles sont pas gênantes, mais ce sont les larves. Et elles pondent en quantité très importante parce qu'une femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs. Au bout de 2-3 jours, ça fait une petite larve et qui pendant 2 à 3 semaines va dévorer en fait les matières organiques, parce que c'est vrai que on les appelle les mouches des terreaux parce qu'on le trouve souvent dans les endroits où il y a de la décomposition. Donc ça se nourrit de tout ce que ça va trouver comme ça, mais également malheureusement les matières vivantes comme les racines et même les jeunes tiges. Donc en fait ça creuse dans la racine. Et puis, ça s'introduit même à l'intérieur. Et puis, donc, du coup, c'est pas forcément directement le dégât de la larve qui va être le plus embêtant. Mais une fois qu'elle a fait une blessure sur la plante, eh bien, les tissus qui ont été blessés sont des portes ouvertes à beaucoup de champignons qui, eux, sont gravissimes, qui sont du genre Pythium ou Phytophthora, Botrytis, Fusarium, pardon, Verticillium. Tout cela, qui sont donc des champignons qui vivent dans le sol et qui attaquent les racines. Et là, on n'a strictement plus rien à faire. Donc, on a ces problèmes-là à régler. Alors, bon, vous avez trouvé des nématodes. Ça, c'est pas mal du tout. Parce qu'aujourd'hui, on a pratiquement que cette voie biologique pour essayer d'éliminer. Alors, on dit aussi que...
j'ai mis du sable de rivière aussi.
Pour alléger.
Pour les bloquer, pour bloquer leur accès, qu'elles peuvent plus aller dans le terreau pour pondre.
Ah, vous avez fait une sorte de barrière.
Ouais, c'est ça, une sorte de barrière. Voilà, j'avais vu ça sur internet, donc j'ai essayé. Donc je sais pas si c'est ça ou les nématodes qui ont marché le mieux.
C'est peut-être l'ensemble.
Mais elles ont disparu.
Alors il y a déjà une chose qu'il faut aussi faire, c'est ne pas trop arroser les substrats en permanence. Vous laissez sécher entre chaque arrosage et que vous essayez d'entraîner la plante à résister un peu plus à la sécheresse, ces mouches du terreau qui aiment bien l'humidité, elles vont pas trouver des conditions écologiques tout à fait favorables. Alors, on sait aussi qu'on peut piéger les adultes avec des pièges collants jaunes, ce qu'on utilise aussi pour les alerodes, parce que tout ce qui est les diptères sont très attirés par le jaune, donc ça vous permet de réduire la population d'adultes. Après, on a pas grand chose. Oui, c'est sûr que la couche de sable que vous mettez à la surface du pot, ça va, on va dire, gêner l'adulte pour la ponte. Ça, c'est, voilà. Donc, en fait, vous avez fait plutôt bien les choses. Alors, il y a aussi éventuellement les pyrètres naturels qui sont des insecticides que l'on peut pulvériser au niveau des racines, mais c'est vrai que c'est moins efficace quand même que les matodes. Alors pourquoi ils ont disparu? Ils n'ont pas vraiment disparu, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le stade larvaire qui a terminé son cycle, ça se transforme en adulte, et l'adulte, lui, va se voir ailleurs, entre guillemets, avant de revenir pour pondre. Et puis peut-être aussi, évidemment, que les mesures que vous avez prises font en sorte que les conditions sont moins bonnes pour les mouches aujourd'hui et qu'elles vont peut-être trouver un autre jardin qui a été moins protégé et puis continuer à faire leur développement.
Alors, bon, j'espère.
Votre deuxième question, elle était sur quoi ?
C'est sur les tomates. Alors, j'ai des pieds de tomates qui ont grandi. Ils sont vraiment grands. Ils font 2 mètres de haut. Le truc, c'est qu'ils sont pas, ils sont pas exposés plein soleil toute la journée, étant donné qu'ils sont sur un balcon. Et ils ont énormément fleuri. Sauf que je vois que toutes les fleurs, ne se transforment pas en tomates. Il y en a qui sèchent. Donc, je me suis demandé s'il avait peut-être pas été bien fertilisé.
Sans doute, parce que vous imaginez que des tomates de 2 mètres de haut en pot, il leur faut une quantité de nourriture pour amener leurs fruits à maturité, mais colossale. C'est-à-dire qu'il faudrait carrément les mettre sous perfusion. Normalement, une tomate, on la taille au-dessus du quatrième bouquet de fleurs.
Oui, là, c'est le fait de mettre.
Après, là, vous lui demandez trop à votre tomate, elle n'en peut plus.
C'est-à-dire qu'elle a 2 mètres de vie à gérer, quoi, en quelque sorte.
Ça, on trouve ça dans les serres de production.
Et oui, parce que c'est des tomates de compétition, on va dire, là. C'est des athlètes.
Non, mais vous avez entièrement raison, François. C'est-à-dire que dans les serres de production, vous avez des tomates qui sont plantées simplement dans un bloc de laine de roche.
Et bien sûr.
Tout petit.
Mais avec des nutriments.
La tomate, elle fait 3 mètres de haut. Mais elle est alimentée en permanence.
Elle est en transfusion totale.
En perfusion, oui, avec des goutte à goutte dans lesquelles il y a de la solution nutritive.
Donc vous, dans votre cas, du terreau bas de gamme en plus,
Le terreau bas de gamme.
Mais j'ai mis du terreau que j'ai trouvé dans le commerce parce que c'était. Je peux pas faire de compost sur mon balcon. C'est ça le problème.
Non, mais mon cher Bastien, ça a aucune importance. Mais le terreau, en fait, c'est un support de culture. Je vous dis par exemple que dans les serres, on les cultive simplement dans de la laine de roche. Donc le substrat, à partir du moment où il est drainant, si vous nourrissez correctement et régulièrement votre plante, il n'y a pas de problème. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez diluer un ou deux, jusqu'à deux là, bouchons d'engrais liquide pour tomates ou pour fraisiers.
Dans un gros... Les billes, là, vous savez, les billes en grès.
Non, vous faites ce que je vous dis, parce que ça ne va pas marcher. Donc, de l'engrais liquide dans un arrosoir de bonne taille, de 8-10 litres, à peu près 2 doses, c'est-à-dire quand même au moins le tiers de ce qui est conseillé normalement. Mais ça, vous allez utiliser cette eau-là fertilisante en permanence, chaque fois que vous allez arroser, de manière à avoir vraiment un système de nutrition régulier et peu concentré. Et là, je peux vous garantir, ça devrait marcher. J'aurais fait aussi quand même un petit truc, c'est quand même de pincer mes tomates pour réduire un peu leur taille, parce que quand même, là, je pense que vous avez essayé d'aller un peu au-delà des capacités productives.
Je pince quoi ? Je pince les branches où il n'y a pas de fleurs ou...
Alors, déjà, attendez. Normalement, quand on fait une tomate en pot, on fait un bras, c'est-à-dire qu'on garde la tige principale, qu'on coupe à quatre bouquets, et après, les pousses latérales, éventuellement, vous pouvez garder encore 2 bouquets de fleurs, mais tout ce qui pousse et qui n'a pas de fleurs, c'est éliminé systématiquement, parce que ça vous pompe de l'énergie aussi au détriment des fruits.
Ok.
Voilà, Bastien.
Eh ben, vous avez bien fait de venir.
Messieurs.
Bonne journée. Merci, Bastien.
Merci, pareillement.
À très bientôt.
Au revoir.
Et tout comme Bastien, vous voulez poser votre question à Patrick Mulan, on va évoquer la lavande dans quelques instants. Si vous avez des questions sur la plantation de lavande, sur sa culture, n'hésitez pas. Ce n'est pas la peine de nous appeler au 32-16, on n'a pas de standard ce matin. Vous savez qu'on travaille dans des conditions, dans un contexte particulier. En revanche, vous pouvez nous joindre via Direct Studio. Si vous avez un smartphone, vous avez l'appli RMC, vous avez le petit onglet Direct Studio, vous nous laissez votre message avec un numéro de téléphone sur lequel on peut vous appeler et on vous rappellera et vous passera l'antenne. C'est ce qu'a fait par exemple Jean qu'on va retrouver dans quelques instants. Donc n'hésitez pas. Via Direct Studio, vous pouvez nous laisser vos messages. Il est temps de retrouver le conseil de Miu Miu maintenant.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC.
L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Alors, Patrick, qu'appelle-t-on justement un rejet chez les plantes et quel est son rôle ?
Alors, sur certaines plantes, pas sur toutes, on voit apparaître au pied des pousses qui sortent de la souche, soit tout près de la souche et parfois un petit peu plus loin. Donc ces rejets, on peut les appeler des drageons, des stolons ou des gourmands.
D'accord, c'est comme ça. Ça a 3 noms en fait.
Ben, vous allez voir que on ordonne des noms pour des raisons particulières.
Alors, justement, vous venez de dire drageon. Qu'est-ce qui caractérise ce type de rejet ?
Alors, les drageons, on les trouve essentiellement sur les plantes ligneuses, c'est-à-dire sur les arbres ou les arbustes. C'est une pousse souterraine qui naît d'une racine ou d'un rhizome. Alors, sur les pousses, sur les ligneux, généralement, c'est d'une racine. Au-dessous du niveau du sol et sur ces racines se forment des petits bourgeons qui, à un moment donné, se développent et vous font une pousse.
D'accord. Quelles sont les plantes qui forment couramment, justement, ces drageons ?
Alors, si je m'appelais Patrick de la Palie, je vous dirais que c'est les plantes drageonnantes. On appelle ça des plantes donc drageonnantes. Il y en a pas mal. Le mimosa, par exemple, pour le midi. Le merisier, le robinier, ce qu'on appelle l'acacia. Ouf, c'est une des pires au niveau du drageonnage. Le noisetier, le lilas, le framboisier aussi. Ça, le sumac de Virginie, le russe. Bon, l'élante, qui est une plante invasive en Île-de-France, par exemple. Le cognacier du Japon. Il y a pas mal de plantes. L'argousier aussi, etc. Donc, sachez aussi que lorsque vous regardez les noms botaniques des plantes, ça a certainement un intérêt, puisque par exemple, tout ce qui s'appelle stolonifera, comme par exemple le cornouiller stolonifère, cornus stolonifera, produisent donc des drageons.
Est-il possible d'empêcher une plante de drageonner ?
Alors oui, on peut réduire du moins son comportement drageonnant. D'abord, il ne faut pas blesser les racines. C'est-à-dire que dès que vous allez toucher les racines, par exemple, avec un coup de binette ou un coup de bêche quand vous labourez autour de la plante, eh bien, ça va se cicatriser et faire un drageon. Il y a un truc aussi à faire, c'est de pailler donc, autour des plantes au lieu de passer la binette pour empêcher les herbes indésirables. Et toutes les racines superficielles peuvent drageonner. En revanche, celles qui descendent le plus en profondeur ne le font pas. Donc, il est intéressant de ne pas trop arroser souvent, de manière à ce que la plante ait tendance à envoyer des racines en profondeur
et donc
pour aller chercher l'eau.
Voilà, et pas en surface.
Si vous arrosez trop souvent, d'accord, elle va rester en surface et là, ça va drageonner. Sachez aussi que chaque fois que vous éliminez les drageons, ça entraîne généralement une réaction de la plante pour en faire d'autres.
Et oui.
Donc plus vous en coupez et plus il y en a. Donc, et surtout, ne multipliez pas les plantes drageonnantes par drageons. Par exemple, un lilas qui fait un rejet, si vous coupez le rejet, évidemment, vous allez pouvoir avoir un nouveau lilas, mais celui-là, il va encore plus drageonner que la plante mère.
D'accord. Est-ce que les drageons peuvent apparaître loin de la plante mère, justement ?
Oh bah oui, si vous prenez les bambous, par exemple, ça peut vous traverser complètement un dallage de 3 ou 4 mètres de long et émerger de l'autre côté. Mais il y a un champion du monde qui est le peuplier faux tremble, le Populus tremuloides. Ces drageons peuvent apparaître jusqu'à 20 mètres, voire 80 mètres de la plante mère. Donc c'est vraiment un système invraisemblable, souterrain, et qui peut faire... Alors ça peut former une sorte de forêt. Hein. C'est là aussi qu'on a eu ce nouveau concept de, on va dire, de groupe végétal qui a été un petit peu développé ces dernières années, où on se dit qu'un arbre, justement, en créant des drageons, petit à petit, il fait une sorte de communauté, et à partir d'un seul arbre, on peut presque avoir une sorte de bosquet forestier, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant aussi de dire qu'une plante devient une colonie.
Quelle est l'utilité d'un drageon, Patrick ?
Alors, on vient de dire que si vous le séparez de la plante mère, il vous refait une nouvelle plante, donc ça, c'est déjà intéressant. Mais, donc, ne le faites pas, puisque en fait, ça augmente l'aspect drageonnant. Alors, ce qui est intéressant sur les plantes drageonnantes aussi, c'est qu'elles conquièrent complètement le terrain et elles vont maintenir le sol. On utilise beaucoup de plantes drageonnantes pour tenir les dunes, par exemple, pour mettre sur les talus, parce que du coup, vous avez vraiment système, un web, on va dire, de racines.
Un réseau
très très puissant, et ça c'est intéressant.
Alors, il y a aussi un inconvénient avec les plantes drageonnantes, Patrick.
Alors, oui, parce que plus elle émet de drageons, et plus la plante mère a tendance à se fatiguer. Tiens, mon ami Jérémy, qui fait la météo, qui est à côté de moi, me posait la question tout à l'heure par rapport à sa menthe. la tige d'origine qu'il avait, elle commence à jaunir, alors qu'il y en a plein d'autres petites qui se sont fait à côté. Bah oui, parce qu'en fait, les bébés sont en train de pomper un petit peu l'énergie du pied-mère. Donc ça, c'est un petit peu le problème. Donc il faut normalement éliminer les drageons qui ont tendance à affaiblir la plante d'origine.
Quelle est la différence entre stolon, Patrick, et drageon ?
Alors, les stolons, c'est la même chose que les drageons, sauf que ça apparaît sur les plantes non ligneuses, par exemple sur les fraisiers, et au lieu d'apparaître sur une racine souterraine, ça apparaît généralement sur une tige rampante qui est, elle, à l'extérieur. Alors, pas toujours, parce que par exemple, si vous prenez le chien-dent, lui, il fait des racines, enfin, pardon, il fait des tiges souterraines qu'on appelle des rhizomes et qui vont bourgeonner. Mais, voilà, on va dire que la différence qu'il y a, d'un côté, les drageons, plantes ligneuses, de l'autre côté, les stolons, plantes herbacées. Alors, les fraisiers, les saxifrages stolonifera, le chien-dent, beaucoup de graminées, la phalangère aussi, le chlorophytum qu'on cultive à la maison. Voilà, ce sont des plantes qui font des drageons, des stolons, pardon.
Des dojons, oui, et non pas des dojons et drageons. Ça, c'est un jeu qui n'a strictement rien à voir, Patrick. Je ne sais pas si vous étiez un spécialiste de tout cela. Alors, on a pas évoqué encore les gourmands. Qu'est-ce qui les différencie des autres rogers ?
Alors, les gourmands, c'est propre aux plantes greffées.
Je ne parle pas de Jérémy, qui lui est un gourmand, mais dans un autre contexte.
Mais on les appelle gourmands en général parce que justement, ils sont des tiges gourmandes qui sont très très puissantes et qui sont issues du porte-greffe.
Ah oui.
Donc, quand vous avez un rosier, par exemple, dont je vous rappelle, le rosier moderne, enfin les rosiers qu'on cultive la plupart du temps au jardin, ont 5 à 7 folioles. La feuille, elle a 5 à 7 petites feuilles. Quand vous avez une grosse tige qui part du sol et qui fait 7 à 9 folioles, donc des feuilles plus petites généralement, c'est issu du porte-greffe et c'est un gourmand. Alors lui, il pompe tout, c'est très très puissant, donc on va le couper au ras de son point de départ, c'est très très important.
Patrick, voilà, on sait à peu près tout sur les drageons, les stolons, les gourmands, mais...
Il y a les kékis.
Les kékis. Non, pas les kakis, hein, non. Les kékis.
K-E-I-K-I, c'est en fait des drageons qui apparaissent sur les hampes florales des orchidées phalaenopsis.
Ah d'accord, très bien. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin de ce là, conseil de Patrick, on sait tout. Vous savez quoi ? Je vais vous offrir encore un cadeau ce matin. On est comme ça sur AMC, on ne s'arrête jamais. Et je vous offre, écoutez bien, votre piscine Summer Waves. Vous avez bien entendu, je vous offre ce matin une piscine tubulaire, rectangulaire, de 4 mètres sur 2. Bon, évidemment, c'est pas un bassin olympique, mais franchement, déjà, pour avoir une piscine olympique, il faut avoir de la place. Autant là, ça c'est bien pour se rafraîchir. Elle sera parfaite dans votre jardin. Et surtout pour affronter ces pics de chaleur qu'on a connus ces derniers jours. Pour gagner cette piscine, c'est simple, vous nous envoyez dès maintenant le mot « jardin » par SMS au 732-16. Jardin par SMS au 732-16 et vous participez au tirage au sort. Cette piscine est peut-être pour vous. Jardin par SMS au 732-16. Attention, ces SMS sont surtaxés. Et on va revenir dans un instant, juste après la météo, avec Jean. On va parler de jacaranda en fleurs et de flamboyant bleu avec lui.
Votre jardin sur RMC avec Mano Mano.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin, François Sorel.
Patrick Mulan.
Vous venez d'arriver sur RMC, bon réveil à vous toutes et à vous tous. Une pensée aussi à tous ceux qui travaillent en ce samedi matin, 6h31. Voilà, certains terminent leur nuit de travail. Peut-être êtes-vous en train de rentrer chez vous pour vous reposer. En tout cas, on est là. Merci en tout cas d'avoir choisi RMC pour vous accompagner. C'est le jardin jusqu'à 7h avec Patrick Mulan. Juste après, ce sera la maison avec Christian Pessé. On évoquera la literie. Comment bien choisir sa literie et bien sûr vous pourrez poser vos questions au 32-16. Non pas au 32-16. Et oui, et puis en plus, vous voyez, j'ai pris l'habitude de vous parler du 32-16, mais on n'a pas de standard. Vous savez qu'on est dans, on rallie cette émission dans un contexte particulier. Donc pas de 32-16, hein, nous n'avons pas de standardiste ce matin, mais en revanche, via Direct Studio, vous pouvez nous laisser vos messages. Donc pas de 32-16, mais avec votre smartphone, via l'appli RMC Direct Studio, vous pouvez nous contacter et laissez-nous s'il vous plaît votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Dans un instant, la lavande, mais auparavant, c'est Jean qu'on retrouve. Bonjour Jean.
Allô, allô, oui, vous m'entendez? Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean, bienvenue sur RMC.
Merci d'être là toutes les semaines, on est ensemble, on se voit, on s'entend, on se parle, on s'écoute toutes les semaines, c'est bien.
Ben oui, écoutez, on est ravis d'être avec vous Jean. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes, c'est ça hein?
Voilà, tout près de Nice, et il y a énormément de jacarandas ou de flamboyants. Alors j'aurais aimé savoir si vraiment c'est pareil ou s'il y a une différence entre les deux.
Alors, vous savez, il faut faire très attention avec ce qu'on appelle les noms vernaculaires. Parce qu'on peut donner le nom de flamboyant à beaucoup d'arbres. Normalement, le vrai flamboyant, c'est Deilonyx regia, c'est-à-dire un arbre tropical qui a un port extrêmement arrondi, ample, et dont les fleurs sont rouge-orangées. Cet arbre, Deilonyx, on en voit assez peu en Europe parce qu'il est quand même très frileux. En revanche, le jacaranda, on l'appelle aussi flamboyant bleu, parce que lui, il fleurit bleu. Et là, disons, la chose similaire entre Deilonyx regia, le flamboyant, et le jacaranda, c'est le feuillage. C'est que ce sont toutes les deux des plantes de la famille qu'on appelait dans le temps légumineuses et aujourd'hui fabacées, qui ont des feuilles très très finement découpées, un peu comme celle du mimosa d'ailleurs. Donc si vous regardez bien, vous avez des arbres qui, au niveau du feuillage, sont très très proches. En revanche, le port du jacaranda est quand même plus érigé, et c'est un arbre qui, dans votre région des Alpes-Maritimes, peut réussir, notamment donc dans la partie, on va dire, vraiment Riviera, hein, Côte d'Azur, parce que c'est quand même assez frileux. C'est un arbre qu'on voit énormément en Afrique du Sud, notamment la capitale de l'Afrique du Sud, Pretoria, est connue pour ses alignements de jacaranda. Lorsque c'est en fleur, tiens, c'est exactement comme le t-shirt de François Sorel aujourd'hui. C'est d'un très très beau bleu. Et c'est vrai que c'est particulièrement spectaculaire. Donc voilà. Mais après, dans les flamboyants, si vous regardez un petit peu, alors je sais pas, des lexiques de botanique, vous allez trouver énormément de plantes que l'on appelle le flamboyant. Par exemple, dans la région méditerranéenne, on cultive aussi une plante qui s'appelle, qui est un arbuste celui-là, qui s'appelle Cesalpinia giliesi, qu'on appelle souvent aussi le flamboyant, qui fait partie de la même famille des fabacées, mais dont les fleurs ont strictement rien à voir. Ce sont des fleurs qui sont beaucoup plus aériennes, beaucoup plus légères et qui sont rouge et jaune. Voilà. Donc, faut faire attention sur les noms vernaculaires, parce qu'ils vous entraînent sur des dérives, alors que le nom jacaranda est le nom botanique de cet arbre, hein, c'est jacaranda mimosifolia, donc à feuilles de mimosa, comme je vous expliquais précédemment.
Très bien, merci beaucoup.
Voilà,
très
Jean.
Intéressant. Et puis, ils sont très jolis, très jolis.
Ah ben ça, c'est superbe. Malheureusement, on ne peut pas le cultiver dans toutes les régions de la France. Hein.
Merci Jean pour votre appel. Et si, tout comme Jean, vous voulez nous joindre, uniquement l'appli RMC Direct Studio ce matin sur votre smartphone avec l'appli RMC. Vous nous laissez un message dans Direct Studio avec votre numéro de téléphone. Et justement, on va parler des lavandes. Si vous avez des questions sur les lavandes qui sent bon en cette période de l'année, oui, N'hésitez pas. Hein, l'appli RMC Direct Studio, vous posez votre question avec votre numéro de téléphone. On peut vous rappeler dans les minutes qui viennent. Donc, Patrick, dites-nous quelques mots de botanique pour débuter sur la lavande, pour qu'on la connaisse mieux.
Alors déjà, la lavande, aujourd'hui, c'est la plante la plus vendue, la plante d'extérieur la plus vendue en Europe. J'ai eu des statistiques qui viennent des marchés hollandais.
Ah oui.
Aujourd'hui, numéro un, la lavande. Ben, comme vous venez de le dire, François, pourquoi est-ce qu'on cultive la lavande? Ben, essentiellement pour ses fleurs et son parfum. Alors, c'est la plante absolument incontournable des paysages de Provence. Et d'ailleurs, je voudrais insister sur le fait que si vous voulez profiter des champs de lavande qui sont magnifiques en ce moment dans les Alpes de Haute-Provence, dans le Vaucluse notamment, eh bien, il faut y aller ce week-end parce qu'ils commencent à récolter la lavande à partir du 1er juillet.
Vous étiez dans le sud cette semaine, vous en avez vu?
Complètement là-dedans. On a fait des reportages pour nous Jardin TV et c'était le moment. Alors, c'est curieusement un peu en retard. Parce que tiens, est-ce que vous avez une idée du moment optimum pour récolter la lavande? À quel moment le lavandiculteur va dire, tiens, tac, il faut que je cultive?
Alors là, aucune idée.
Eh bien, il faut que trois quarts des fleurs soient fanées, sur les pieds.
Ah oui.
C'est là que la concentration d'huile essentielle est au maximum. Donc là, il y avait un petit peu de retard, donc n'hésitez pas sur la semaine qui vient, c'est là qu'il faut aller profiter des champs de lavande. Alors maintenant, sur la botanique. La botanique, on est dans la famille des lamiacées, c'est-à-dire dans la famille du thym, du romarin, de la sauge, par exemple. Donc toutes ces plantes qui sont toujours très riches en huile essentielle. Il y a 47 espèces de lavande, elles viennent toutes de régions sèches, ensoleillées et rocailleuses, hein, depuis les îles Canaries, sur tout le pourtour méditerranéen, l'Afrique du Nord, on en trouve jusque en Inde également. Et le mot lavandula, qui est donc le nom botanique de la plante, a été attribué, comme beaucoup d'autres, par le naturaliste suédois Carl von Linné, et qui s'est inspiré du latin lavare, qui signifie laver, allusion donc à l'utilisation très ancienne depuis l'Antiquité. On utilisait cette plante pour parfumer les sels de bain, les onguents, on faisait des parfums avec depuis toujours.
C'est ça qui est génial. Quelles sont les différentes lavandes que l'on cultive couramment dans le jardin, Patrick ?
Alors, la lavande vraie, donc lavandula angustifolia.
On l'appelle la lavande vraie.
Alors, on l'appelle la lavande bleue, la lavande française. Enfin, encore une fois, comme voir le nom vernaculaire, il y a tout ce qu'on veut. Bon, on va dire lavandula angustifolia. Lavande vraie, c'est un sous-arbrisseau. Alors, un sous-arbrisseau, c'est quoi ? C'est une plante dont la souche est ligneuse, en bois, mais qui fait pas un tronc et qui fait surtout plein de pousses herbacées. Donc, une lavande vraie, c'est petit, hein, ça fait une cinquantaine de centimètres de hauteur, et elles ont des feuilles gris-vert et surtout une floraison un petit peu plus tardive que le lavandin dont on parlera après, juillet-août. Bon, enfin, là, il y en avait déjà en fleurs quand même. Sur Valensole, par exemple, et les épis apparaissent sur des tiges uniques. Le lavandin, et c'est ça que vous voyez en Provence, essentiellement, 90% des champs de lavande sont des lavandins, beaucoup plus grands. La plante, elle atteint 70 cm, elle est très érigée, elle fait vraiment une boule avec les épis tout droit. Et la particularité du lavandin, c'est qu'au lieu d'avoir, comme la lavande vraie, un épi sur une tige unique, eh bien, cette tige se ramifie souvent et vous avez 3, 4, 5 fleurs sur la même tige. C'est un hybride naturel entre la lavande vraie et une lavande qu'on appelle la lavande aspic, qui est lavandula latifolia. C'est vraiment la plante la plus productive. Pourquoi ? Ben parce qu'elle donne pratiquement 3 fois plus d'huile essentielle que la lavande vraie. Et elle a un parfum beaucoup plus cosmétique, beaucoup plus puissant, plus camphré, alors que la lavande vraie, c'est très doux, c'est quelque chose de plus subtil, et l'odeur de lavande que l'on a l'habitude de ressentir, c'est le lavandin. Et puis, il y a une lavande qui n'est pas du tout utilisée pour son huile essentielle, que l'on cultive couramment dans nos jardins, c'est la lavande papillon. La lavande papillon qui a un défaut par rapport aux autres, elle est beaucoup plus frileuse, parce que là, le lavandin, par exemple, on le produit jusqu'à 800 mètres d'altitude. C'est une plante qui résiste bien au froid. La lavande papillon, elle, il lui faut un sol différent aussi, parce que la lavande classique, donc lavandin, lavande, sol plutôt calcaire, très caillouteux, etc. La lavande papillon, plutôt sol légèrement acide, plus siliceux, plus sableux. Et elle est différente. Pourquoi lavande papillon ? Parce qu'à l'extrémité de ses épis, elle a deux petites bractées qui ressemblent un peu à des ailes ou à des grandes oreilles de lièvre, si vous voulez, et qui lui donnent son originalité.
Quels sont les points forts de la lavande pour le jardin, Patrick ?
Alors, bien évidemment, on cultive de la lavande, vous l'avez dit tout à l'heure, pour son parfum. Puis c'est quand même joli.
Ça forme naturellement
une boule. Donc c'est assez, on va dire, graphique, avec une floraison qui, si on ne la coupe pas comme les producteurs, nous donne des fleurs quand même jusqu'à la fin août. Début septembre, ça va rester en épi. Après, vous pouvez couper les fleurs, on les garde longtemps. Ça sèche très très bien. Et puis, autre chose de plus en plus important aujourd'hui, c'est quand même, ça attire considérablement les pollinisateurs. Il y avait un bourdonnement incroyable dans les champs de lavande. Les abeilles sont là comme des folles.
Le miel de lavande.
Et le miel de lavande est un délice absolu, bien sûr.
C'est vrai. La lavande possède aussi, on le sait, des propriétés officinales. Mais on va peut-être rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça apporte, la lavande ?
Alors, c'est déjà apaisant, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un petit mal de tête, vous pouvez respirer de l'essence de lavande. Alors, huile essentielle ou essence de lavande, c'est la même chose. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le front. C'est aussi un antiseptique naturel. Alors ça, si vous êtes piqué par des moustiques, par exemple, ou par une puce, eh bien, vous appliquez un peu d'huile essentielle de lavande ou de lavandin sur le corps. Et ça, c'est bien parce que il y a aussi le côté antiseptique, mais aussi le côté bactéricide. Mmh. Donc, si vous êtes aussi brûlé par le soleil, alors là, faut peut-être pas mettre de l'huile essentielle directement, mais vous pouvez mettre de l'eau de lavande, donc qui est beaucoup plus légère et qui peut vraiment vous détendre et surtout éviter que vous soyez brûlé.
Patrick, si je veux planter des lavandes à la maison, sur mon, dans mon jardin, sur ma terrasse, plein soleil, obligatoirement?
Bah oui, il suffit de regarder comment c'est, les champs de lavande, comment ils sont exposés. Non, mais surtout une chose, François, jamais dans du terreau. C'est la mort de la lavande.
Ouais.
Si vous allez voir les champs de lavande, vous êtes dans des tas de cailloux. C'est incroyable de dire comment ces plantes magnifiques peuvent-elles pousser. Survivre là-dedans. Enfin, il y a des pierres en permanence qui font 20 cm de diamètre, enfin 10 à 20 cm.
Donc à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire en fait?
Il faut mettre du sable avec de la terre et un peu de terreau quand même pour pouvoir alimenter la plante. Mais pas de tourbe, pas de fumier, pas de compost, pas tout ça. Donc des sols qui soient extrêmement drainants.
D'accord. Quels soins d'entretien on peut apporter justement aux lavandes à la maison?
Bah écoutez, le moins possible déjà, c'est-à-dire que à la plantation, évidemment, vous allez bien arroser pour que les racines commencent à se développer dans le substrat. Mais ensuite, n'arrosez pas plus d'une fois tous les 15 jours, même une lavande en pot. On les fait crever parce qu'on les arrose de trop. Il faut bien être clair là-dessus.
Une fois par semaine?
Ben non, plutôt une fois tous les 15 jours.
Ah, une fois tous les 15 jours.
C'est parce que même là, avec cette température invraisemblable, ça tient le coup.
Oui, ça aime bien ça, en fait.
Par exemple, si vous avez un jardin, vous ne voulez pas faire beaucoup d'entretien, lavande romarin éteint, c'est quand même pas mal. Plus 6, par exemple, c'est ce genre de jardin sans arrosage. Et puis surtout, pensez, après la floraison, à effectuer une taille sans jamais toucher le bois sec. Le bois ne reperce pas. Donc, vous devez toujours laisser 3 à 5 cm de tige herbacée, donc gris vert, au-dessus du bois pour que vous ayez des nouvelles pousses. Si vous ratiboisez une lavande, eh bien, vous avez détruit la plante.
C'est cuit. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Il est 7h moins le quart. On va revenir dans un instant avec Yasmina, qui nous attend au 32-16. On va parler de palmiers d'intérieur avec elle. Mais auparavant, je vous rappelle que ce matin, je vous offre une piscine Summer Waves, c'est son nom. Piscine tubulaire, rectangulaire, de 4 mètres sur 2, qui sera parfaite dans votre jardin, bien entendu. Cette piscine, vous pouvez tenter de la gagner par SMS. Vous nous envoyez jardin au 732-16. Jardin par SMS au 732-16 et vous participez au tirage au sort, tout simplement. Je vous souhaite bonne chance. Attention, ces SMS sont surtaxés. Hein. Je disais 7h moins le quart, on revient dans une minute. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, 6h47, le retour de ce week-end des experts. La météo du jardinier dans un instant. Patrick a étudié les cartes de Météo France pour les jours qui viennent. Est-ce qu'on aura toujours cet épisode de chaleur intense? On verra ça dans un instant. Mais auparavant, place à vos questions. Yasmina nous attend au 32-16. Bonjour Yasmina.
Bonjour.
Bonjour Yasmina, bienvenue.
Bienvenue, vous êtes dans l'Oise,
merci
Yasmina.
Merci à vous de m'appeler. Oui, tout à fait.
Et on vous écoute, Patrick Mulan vous écoute.
Alors bonjour, excusez-moi. Donc je vous appelle parce que j'ai un palmier Kentia, je pense que c'est ça, comme sorte de palmier. En fait, il a plus de 10 ans, j'y tiens énormément, parce que c'est un palmier que m'avait mis en pot mon papa avant son décès, etc. Donc j'y tiens beaucoup, et il était énorme, hein, il faisait presque 1m20 de circonférence, avec une hauteur d'à peu près 1m50. Et puis un jour, il a eu malencontreusement une mauvaise manipulation, il a été en plein soleil, mais parce qu'il vit à l'intérieur. Il a brûlé, je l'ai remis en vie, ça allait mieux. Et puis, je l'ai changé en 10 ans, je l'ai changé une fois de terre. Et ça allait plutôt bien, il vivait seul, un peu dans l'ombre en Bretagne, parce que il était en résidence secondaire, devant une fenêtre quand même. enfin devant un puits de lumière. Et puis en fait, là, dernièrement, je l'ai rempoté. Et là, il est en train de rendre l'âme. Je ne sais pas pourquoi. Les feuilles sèchent par la tige d'abord.
Moi, j'ai
et
vu,
puis elles s'écroulent.
J'ai vu vos photos, franchement. Alors, vous me dites.
Il est vraiment misérable, le pauvre.
Ah oui, enfin, moi, une plante comme ça, franchement. Enfin, je fais plus rien, quoi. Non, mais vous avez fait des erreurs, de toute façon.
D'accord.
Bon, on ne met pas un palmier comme ça dans un pot à réserve d'eau. C'est la meilleure façon de les faire mourir.
Yasmina, vous allez vous faire engueuler, je vous avertis.
Hein. Oui, je sens ça.
Ouais. Et deuxièmement...
Ça monte, là. Alors, la pression monte.
J'ai pas pu, puisque j'avais que la photo, mettre ma main dans le terreau, mais j'ai l'impression quand même que ce n'est pas du tout un substrat
alors,
de
c'est
qualité.
Un terreau méditerranéen.
Oui, mais ça ne veut strictement rien dire, c'est du marketing, ça. En fonction des marques, les terreaux pour plantes méditerranéennes, vous verrez, la composition n'a rien à voir de l'une à l'autre.
J'ai trouvé des morceaux de plastique dedans. Bon. Donc
non, mais en plus, un palmier, ça ne pousse pas dans terrible. Du terreau. Un palmier, ça ne pousse pas dans du terreau. Un palmier, ça va pousser dans un mélange de sable, de terre, de jardin et de terreau. Mais de toute façon, d'une manière générale, le terreau, j'en ai parlé un peu dans l'émission, c'est un support de culture. Mais un support de culture, après, il faut savoir comment on va doser tout ça. Alors déjà, un, bac à réserve d'eau, mouroir pour plantes. Deuxièmement, ce type de terreau qui me semble être un terreau très noir, très, très fin, très dense, exactement ce qu'il ne faut pas. Et dans l'état actuel, malheureusement, de ce que je vois sur la photo de votre palmier, je ne veux pas être catastrophiste, mais
c'est pas bon,
va être compliqué
c'est pas bon.
Quand même. Parce que, il reste à peine une feuille. Bon, je pense que c'est plutôt un arrêt.
Il y a une pousse à la tête. C'est pour ça que je me disais peut-être.
Non, mais bon, on va dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais là, il n'est pas dans des conditions.
Exactement.
Alors, est-ce que vous avez la possibilité de le mettre dehors?
Oui, j'ai la possibilité de le mettre dehors, oui. Mais dehors en terre?
Ah non, pas dehors en terre.
Non, le laisser en pot.
De le laisser, parce que
en hiver. Toujours vécu en réserve d'eau, en bac à réserve d'eau.
Moi,
quand mon père l'avait, bon, lui, c'est vrai qu'il était du métier, donc il avait peut-être un entretien particulier, mais il était énorme, il était beau comme tout.
Les bacs à réserve d'eau, il faut les utiliser de la façon suivante. C'est comme lorsqu'on fait de la réserve d'argent, je dis. C'est-à-dire que quand vous faites de la réserve, c'est que vous l'utilisez que lorsqu'il y en a vraiment besoin, et pas en permanence. Si vous remplissez votre réserve d'eau tout le temps, la plante elle s'asphyxie, elle est tout le temps dans un milieu qui est détrempé, parce que la réserve d'eau fonctionne de la façon suivante, l'eau est au fond et remonte par capillarité. Mais comme elle est au fond, elle attire aussi les racines qui viennent plonger vers le fond du pot, dans lequel la concentration en eau est au maximum. Et donc les racines, elles finissent par s'asphyxier. Et je n'arrête pas d'expliquer aussi à tout le monde que dans la vie normale, l'eau, elle passe du haut vers le bas et pas dans l'opposé. Et que ce que l'on appelle le drainage, c'est justement le fait que l'évacuation de l'eau se fasse par le bas. Or, dans un pot à réserve d'eau, l'eau, elle ne s'évacue pas par le bas, elle reste stagnante. Donc, à part des plantes qui ont un énorme besoin d'eau, comme les papyrus, par exemple, toutes les plantes qu'on met dans des bacs à réserve d'eau, si on ne les utilise pas de façon très précautionneuse, eh bien, on les fait crever. Alors, comment c'est l'utilisation précautionneuse? Eh bien, c'est d'arroser par le haut, pas trop souvent, et pas en quantité trop importante, de manière à ce que la réserve ne se remplisse pas par drainage. Quand vous arrosez trop, l'eau rentre dans la réserve et elle remonte après. Et uniquement utiliser la réserve quand vous partez pour quelques jours, et à ce moment-là, vous remplissez la réserve pour que la plante ne manque pas d'eau. Mais si on ne fait pas ça, ce qui est quand même assez difficile, parce qu'il faut bien doser la quantité, vous avez des échecs. Voilà.
Yasmina, on vous embrasse, merci pour votre appel. Et si tout comme Yasmina, vous voulez joindre Patrick ou nos experts ce matin, c'est uniquement... exceptionnellement ce week-end, par Direct Studio, donc via votre smartphone, avec votre message et votre numéro de téléphone via l'appli RMC. Vous nous posez votre question avec votre numéro de téléphone, on peut vous rappeler très vite. Allez, 6h53, la météo du jardinier maintenant, Patrick. Vous avez jeté un œil sur les cartes de Météo France pour les jours qui viennent. Est-ce que les jardiniers ont des précautions à prendre ?
Bah, normalement non, parce que justement on va se retrouver dans des conditions beaucoup plus acceptables par les végétaux. Alors attention, les indices de confiance sont que de 3 sur 5, donc on peut penser que c'est pas exactement ce qui
va se passer. Oui, c'est encore
pas
stable.
Mais globalement, les températures vont largement, mais largement chuter, puisque on va se retrouver à partir de lundi sur la moitié nord avec des températures qui dépasseront pas les 20 degrés. On aura jusqu'à effectivement 30 dans la région d'Aix-en-Provence, mais ça c'est un peu plus normal. Et puis ça va continuer à se réduire au niveau de la température. On aura même des 15 degrés du côté du nord, des Hauts-de-France, avec une tendance largement orageuse à partir de mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, normalement, on devrait avoir des pluies sur l'ensemble du pays, avec des zones orageuses fortes sur les Alpes, sur les Pyrénées, sur le Lyonnais, par exemple. Donc là, au niveau des précautions à prendre sur le jardin, c'est faire attention quand on a des jeunes semis à mettre des voiles de protection pour que la très très forte pluie ne puisse pas détruire les jeunes pousses. Derrière ça, on va dire que ça va pas être une grande journée, enfin une grande semaine de jardinage, sauf dans la première partie. Donc dimanche, lundi, mardi, par exemple, vous pouvez faire des gros travaux. Des travaux à la Christian Pesset.
Mais oui, j'espère bien.
Du dallage, du muret, de la clôture, ça va être le bon moment pour faire ça.
Du lourd, quoi. Donc,
ouais, du lourd pour faire de la structure de votre jardin. Et puis, à partir de jeudi, on va rester à la maison, tranquille, parce qu'on regardera la pluie tomber. Mais le jardin va être extrêmement content.
Bon, très bien, finalement. Hein. Alors que nous, on sera peut-être mécontents, mais le jardin, lui, va être content.
C'est beaucoup plus facile de se comporter dans les températures moyennes que dans les extrêmes qu'on vient de subir. Hein. Ça, c'est quand même évident.
C'est clair. Patrick, pour terminer, un petit coup de cœur, coup de gueule, qu'est-ce que vous avez pour nous ?
Plutôt coup de cœur.
Coup de cœur, allez.
Il faut visiter les jardins, ils ont eu pas beaucoup de visites jusque-là. Et il y a un guide très intéressant qui s'appelle le guide des jardins remarquables en Île-de-France. Vous savez, il y a un label qui a été décerné depuis 2004 par le ministère du Tourisme sur les plus beaux jardins, enfin les jardins les plus intéressants, on va dire, qui s'appelle Jardin Remarquable. Et bien ce guide répertorie en Île-de-France les jardins remarquables. C'est un livre qui est super bien illustré, donc qui vous donne vraiment envie de découvrir des parcs et des jardins qu'on connaît peut-être pas forcément si vous êtes francilien ou si vous venez passer vos vacances en Île-de-France. Et puis j'ai un deuxième petit bouquin qui est lui très très différent, qui s'appelle La botanique à hauteur d'enfant, aux éditions du Rouergue. C'est vraiment un truc sympa pour apprendre aux enfants à découvrir ce qu'est une plante, à voir l'intérêt de certaines plantes, faire un herbier par exemple. Donc voilà, faire aussi des petits objets avec des plantes, et puis donc d'aller dans la nature et puis d'explorer un petit peu la flore du moment. Donc La botanique à hauteur d'enfant d'Alain et Marie-Jeanne Genevet chez Rouergue. C'est un livre qui coûte 15,80. Celui dont je vous ai parlé, Guide des jardins remarquables en Île-de-France, édition du patrimoine, il coûte que 9 euros. Donc ça vaut vraiment le coup de l'avoir si vous voulez visiter les jardins en Île-de-France.
Patrick, on sera là samedi prochain, 6h-7h sur RMC.
Exactement.
Le jardin.
Jardinière, je vous embrasse. Mon cher Christian aussi.
Mon cher. Miu-miu, bien sûr, je t'embrasse aussi.
Qu'est-ce qui s'est passé, Christian? Vous avez eu un petit problème
J'allais dire, mon cher François.
Ah oui.
Bah, vous pouvez. Aussi, mais parce que vous êtes tellement admiratif de mon talent que, évidemment, vous confondez avec Patrick. C'est peut-être ça. Non,
ça
tout va bien,
ça.
Christian.
Mais tout va bien. Tout va bien.